J'aimerais parler sur la vision prophétique dans la fin des temps, dans le livre de Daniel au chapitre 9 et au verset 20. Je parlais encore, je priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Tout le monde s'interroge sur l'avenir avec les événements que nous connaissons dans ce monde qui sont graves. Il y a des attentats, il y a des guerres, il y a de la violence. Les gens se précipitent sur les horoscopes. Ils cherchent à savoir comment les choses vont tourner. Mais nous, nous avons la parole de Dieu qui annonce déjà des événements à venir. Un certain nombre d'événements qui sont prophétisés. Il y en a ici, il y en a dans les évangiles, avec Jésus qui annonce clairement les signes qui arriveront dans la fin des temps. Et là, nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Nous voyons ici Daniel qui était dans la prière et qui va recevoir une vision concernant la fin des temps et donc les temps que nous vivons. Nous sommes dans la fin des temps. Dans un premier point, je parlerai du contexte de la prophétie. C'est au verset 20. Le verset 20 dit que « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je me présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. » Il priait. Voilà une bonne décision, voilà ce que nous devons faire. Il priait, il passait du temps au pied du Seigneur. À déployer devant Dieu son cœur et demander pardon pour ses péchés. Cette confession est importante, personne n'est infaillible, nous avons tous péché et nous devons tous confesser nos péchés. Donc il a une bonne démarche, il prie, il confesse ses péchés et alors qu'il est là dans ses supplications et en train de rendre son culte à Dieu, un ange vient le visiter, s'appelle Gabriel. Gabriel signifie en français « héros de Dieu ». Et cet ange vient pour lui ouvrir l'intelligence afin qu'il comprenne la prophétie. Notre intelligence est obscurcie, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Notre intelligence est même fermée au monde spirituel, c'est pourquoi nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Même les disciples avaient besoin que le Seigneur leur ouvre les yeux. Vous connaissez le récit des deux disciples d'Emmaüs, qui pourtant étaient croyants, ils avaient suivi Jésus, Mais alors que Jésus a été crucifié, ils allaient vers Emmaüs et ils étaient tout tristes de ce que Jésus avait été crucifié. Et Jésus vient avec eux, leur parle. Mais pourquoi êtes-vous si tristes? Que s'est-il passé? Ils ne reconnaissaient même pas que c'était le Seigneur Jésus qui venait auprès d'eux, tellement leurs yeux étaient gagnés par la souffrance, la douleur, la tristesse. Et au bout d'un moment, dans Luc chapitre 24, verset 31, on voit que le Seigneur va se révéler petit à petit à eux et s'est dit « Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Jésus était bien là, mais ils ne le reconnaissaient pas. Leurs yeux s'ouvrirent. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Mais ensuite, il disparut de devant eux. Néanmoins, avant de partir, le Seigneur leur a ouvert les yeux pour qu'ils comprennent que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il accomplissait toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, ce que Jésus a fait pour les deux disciples d'Emmaüs, ce qui a été fait pour Daniel, le Seigneur veut le faire pour nous, nous ouvrir les yeux afin que nous puissions comprendre sa parole et voir sa gloire. Daniel, ici, au verset 23, est appelé un bien-aimé. Bien-aimé de l'Éternel, c'est notre position en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aimés de Dieu. David dit, l'Éternel, alors c'est au psaume 138, verset 8, « L'Éternel agira en ma faveur. » Voilà ce qu'est le bien-aimé, il a la faveur de Dieu sur sa vie. « Éternel, ta bonté durera toujours, n'abandonne pas l'œuvre de tes mains. » Si David pouvait dire, « L'Éternel agira en ma faveur », si nous sommes des bien-aimés de l'Éternel, si nous avons donné notre vie à Dieu, alors nous pouvons dire comme David, ben, « Je suis un bien-aimé et l'Éternel agira en ma faveur aussi. » Daniel reçoit ici une révélation, donc alors qu'il était dans la prière, alors qu'il était en communion avec Dieu, que cet ange vient le visiter, tout d'un coup, ses yeux spirituels s'ouvrent et il reçoit une vision prophétique sur la fin des temps. Cette vision va montrer comment les choses vont se passer jusqu'à l'arrivée du Messie qui va mourir, il va être retranché, il est dit au verset 26, il va mourir sur la croix, on sait que c'est Jésus ici, et il va parler de cet homme qui viendra derrière, qui fait référence maintenant à l'Antichrist, qui se lèvera à la fin des temps, et qui fera une alliance avec le peuple d'Israël pendant cette durée de tribulation de 7 années. Alors on va regarder en détail cette prophétie à partir du verset 24. Le verset 24 dit ceci, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. » Déjà, ça part dans la vision avec une durée de 70 semaines. Il nous faut comprendre, ben, qu'est-ce que c'est que ces 70 semaines? 70 semaines, à quoi correspondent-elles? Il y a 3 sens au mot « semaine ». Le premier sens, c'est le sens caché. C'est-à-dire, les semaines ne sont pas à prendre au sens habituel de 7 jours, parce que 7 semaines, si on les convertit en jours, ça ferait 490 jours. Donc, 70 semaines correspondraient à 490 jours, ce qui ferait en 490 jours la reconstruction de Jérusalem, la venue du Messie et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Or, nous savons que ça ne s'est pas passé en 490 jours. Donc, ce n'est pas un sens littéral. Il y a un autre sens derrière le mot « semaine ». L'autre sens, c'est le terme hébreu, qui est dans l'original, en hébreu, c'est « Shabbat ». Donc, dans votre version française, c'est écrit « 70 semaines » au verset 24. En hébreu, c'est « 70 Shabbat ». Shabbat, et d'ailleurs, la version Bible du Semeur, si vous avez cette version, elle traduit littéralement « septaine ». 70 septaines, c'est-à-dire des groupes de 7. Soit un groupe de 7, pas nécessairement 7 jours, mais un groupe de 7. Et maintenant, on va parler du sens prophétique de ce même mot, traduit ici par « semaine », mais en hébreu « Shabbat ». Le sens prophétique, c'est que les semaines ne sont pas de 7 jours, mais de 7 années. car les Juifs étaient habitués dans le monde prophétique à parler d'un jour pour un an. Par exemple, tous les 7 ans, il y avait ce qu'on appelait l'année sabbatique, le sabbat. Pourtant, le sabbat, c'est toutes les semaines, le sabbat chez les Juifs, mais ils considéraient que cette année, c'était aussi comme une grosse semaine de 7 ans, un jour égale un an, et donc la 7e année était l'année sabbatique, un petit peu comme dans la semaine, le dernier jour, c'est le sabbat. Après 7 années sabbatiques, il y avait même la 50e année, l'année du jubilé. Je vous donne un exemple pour vous concrétiser cette réalité prophétique dans Nombre 14, verset 34. Nous connaissons cette histoire, le peuple d'Israël devait rentrer dans la terre promise, et puis, suite au discours des espions, ils ont eu peur et ils se sont retrouvés dans la crainte, alors que Josué et Caleb insistaient en disant « Mais Dieu nous a donné le pays de Canaan, montons, nous serons vainqueurs. » Mais ils n'ont pas réussi à changer la mentalité. Le peuple a donc été sanctionné. Et regardez Nombre 14, 34, vous allez bien voir cette réalité prophétique de un jour pour un an. De même, c'est Dieu qui parle ici, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Vous voyez le parallèle ? 40 jours, 40 jours à explorer le pays et ensuite ils devaient rentrer dans le pays. Eh bien, puisqu'ils n'ont pas obéi, ces 40 jours vont se transformer en 40 années. Une année pour chaque jour. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Bon, ce n'est qu'un exemple, mais vous verrez dans la parole de Dieu qu'à plusieurs reprises, les jours sont comparés à des années dans le sens prophétique. Et c'est le cas ici. Donc, si je reviens à notre texte, nous devons comprendre au verset 24, 70 semaines, non pas des semaines de 7 jours, puisque littéralement c'est Shabbat Septaine, 70 Septaine, si vous avez donc dans la version Semeur, 70 Septaine, et en fait ce sont des Septaines d'années. Alors, à qui s'adresse la prophétie ? Regardons le verset 24. 70 semaines d'années, on pourrait bien comprendre prophétiquement, 70 semaines d'années ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Donc ici, Dieu s'adresse à Daniel. Alors, le peuple dont il est question ici, quel est le peuple qui était le peuple de Daniel ? Est-ce que vous le savez ? Il était de quel peuple Daniel ? Ce n'est pas une question difficile. Ah oui, il était du peuple d'Israël. Donc, le peuple dont il est question, c'est bien Israël. Et ta ville sainte, la ville sainte pour les Juifs, c'est Jérusalem. Oui, ce n'est pas difficile. C'est pas difficile. Donc, ton peuple, c'est le peuple d'Israël. La ville sainte, c'est Jérusalem. Donc, on comprend à qui s'adresse la prophétie. Elle s'adresse au peuple d'Israël et spécifiquement à Jérusalem, qui est la ville sainte en Israël. Maintenant, quel est le point suivant, donc quatrième point, quel est l'aboutissement des 70 semaines ? Il y a plusieurs éléments qui sont mentionnés au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, donc Israël, sur la ville sainte Jérusalem, pour... Alors, à la fin des 70 semaines, voilà à quoi on arrive. On va faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ça, c'est la première chose. Faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, parce que le péché, c'est toute désobéissance consciente ou inconsciente contre Dieu. La transgression, c'est la désobéissance envers une loi de Dieu. Mais pour l'instant, les péchés, ils continuent à être commis. Donc, on n'a pas atteint le bout des 70 semaines encore. Mais je continue. Donc, au bout des 70 semaines, on va dire que le péché, il y aura plus de péché, il y aura plus de, ça aura cessé les transgressions, ça sera terminé. Ensuite, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, ça c'est le point, l'élément suivant. Donc cette prophétie, quand est-ce que la justice éternelle va arriver? Au moment où Christ reviendra du ciel pour établir son royaume sur la terre. Donc c'est encore à venir, c'est quelque chose qui n'est pas accompli, puisque actuellement la justice éternelle de Dieu n'est pas encore physiquement là sur la terre. Mais ça sera le cas dans le règne de Christ de 1000 ans après son retour en gloire du ciel. Un autre élément qui arrivera au bout de ces 70 semaines, c'est sceller la vision et le prophète. Ça veut dire que au bout de ces 70 semaines, il n'y aura plus de prophétie. Et regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Alors, je crois que je ne l'ai pas mis, je ne sais pas si je l'ai mis sur le vidéoprojecteur, mais Paul dit ceci, les prophéties seront abolies. Donc, il annonce qu'il y aura un jour où il n'y aura plus de prophétie. Les langues cesseront, il n'y aura plus de parler en langue. La connaissance sera abolie, il n'y aura plus de besoin de cette connaissance humaine, il y aura une autre connaissance qui sera parfaite. Et si vous lisez le contexte de cette parole qui est dans 1 Corinthiens 13, il parle ici du retour de Jésus. Donc, il dit « quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est de passage, comme les prophéties, les langues, la connaissance, toutes ces choses transitoires disparaîtront. » Mais on parle bien ici du retour de Jésus, donc on est toujours dans la même pensée que les 70 semaines aboutissent au règne de Christ sur la terre. Et puis pour oindre le Saint des Saints, c'est le dernier élément qui est mentionné. Oindre, alors qu'est-ce que c'est le Saint des Saints dans la Bible? C'est le temple. Le temple de Jérusalem est appelé le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, qui est le temple, donc qui sera oint, en fait, il sera consacré à nouveau pour l'adoration. Et effectivement, quand vous lisiez Ézéchiel, par exemple, le prophète Ézéchiel, dans la fin de son livre, il parle d'une adoration dans le règne de Christ de 1000 ans sur la terre, adoration dans le temple. Donc tout converge dans ce passage, verset 24, à pointer que l'issue des 70 semaines sera le règne de Christ sur la terre. C'est donc quelque chose qui est encore à venir. Les 70 semaines aboutissent à l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Alors, c'est annoncé à plusieurs reprises. En fait, l'Ancien Testament annonce la venue du Messie. D'ailleurs, vous le savez certainement, mais encore aujourd'hui, comme c'était le cas à l'époque, les Juifs attendaient la venue du Messie. Mais les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Et aujourd'hui, les Juifs attendent toujours la venue du Messie. Ils attendent encore. Ils attendent la venue du Messie qui va régner sur la terre. Et qui va instaurer la justice éternelle. Donc nous, nous savons que c'est Christ qui reviendra pour le faire, mais les Juifs, ils attendent toujours le Messie. Alors regardez Ésaïe 11:9 pour vous montrer comment ça se passera. Quand le Messie régnera sur la terre... Et je ne lis qu'un extrait, mais la Bible regorge de prophéties qui expliquent comment sera la terre quand Christ régnera. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le courent. Juste un extrait, mais vous avez beaucoup d'éléments qui montrent que ce sera un temps de paix et de prospérité sans précédent. Maintenant, je reviens à nos 70 semaines. Quand est-ce qu'elles ont commencé? Quand est-ce qu'a commencé le décompte? Au verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, ici, on a des indications. La première indication nous parle que Jérusalem sera rebâtie. Ça, c'est une indication temporelle. Plusieurs décrets ont été écrits pour autoriser la reconstruction de Jérusalem. Vous les trouverez dans, par exemple, Esdras, chapitre 1, versets 1 à 3. On ne va pas avoir le temps de les lire, mais c'est Cyrus qui autorise la reconstruction ici du temple. Darius, dans Esdras, chapitre 6, versets 3 à 8, et Artaxerxès, dans Esdras, chapitre 7, verset 7. Mais ces trois décrets ne concernent que la reconstruction du temple et pas de la ville. Le seul décret qui rapporte la reconstruction de la ville se trouve dans Néhémie, chapitre 2, verset 1, et 7 et 8, on va le lire. Néhémie, chapitre 2, « Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. » Et puis verset 7, Néhémie 2, 7, « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer pour entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'ils me fournissent du bois, de la charpente, de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et là on retrouve la ville de Jérusalem qui est mentionnée, pour la reconstruction de la muraille de la ville, pour la maison que j'occupais, le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Donc c'est dans le livre de Néhémie qui a été écrit un siècle après le livre de Daniel, qu'on trouve cette explication d'un décret qui autorise la reconstruction de Jérusalem. On est ici approximativement, parce que c'est très difficile avec les dates, mais on va dire approximativement en 445 avant Jésus-Christ. Pour les historiens, il y a toujours un débat de 5 à 10 ans d'écart entre les dates, donc on va dire 445. À partir de ce moment-là, cet édit d'Artaxerxès, on peut dire que la prophétie des 70 semaines a commencé. Donc, si on revient au verset 25, « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, donc ce fameux décret d'Artaxerxès en environ 445 avant Jésus-Christ, alors il y a deux éléments qui sont mentionnés. Donc, jusqu'au Messie, le Messie ici, c'est Christ, le conducteur. Il y a 7 semaines et 62 semaines, ce qui fait 69 semaines. Donc, on n'est pas tout à fait à 70, on est à 69 semaines. Donc, on va expliquer en combien de périodes les 70 semaines sont divisées. En fait, cette période de 70 semaines d'année est divisée en 3 parties. Première partie, au verset 25, il y aura 7 semaines, 7 semaines qui correspond à l'achèvement de la reconstruction de Jérusalem. À partir de 445, il a fallu 50 ans environ pour reconstruire Jérusalem et le Temple, plus 62 semaines, toujours au verset 25, jusqu'au Messie. Là, on parle de Christ qui est venu, donc on se trouve encore 434 ans plus tard, soit vers l'an 30 après Jésus-Christ. Et puis, enfin, la dernière semaine est détachée des 69 premières. On voit bien qu'il y a un premier lot de 7 plus 62 qui sont groupés. Il dit il y a 7 semaines et 62 semaines, on peut les regrouper, ce qui fait 69. Première partie, et ça va jusqu'au Christ. Et puis ensuite, il parle d'une semaine qui est à part, et c'est cette semaine-là qui correspondra à la venue de l'Antichrist, et qui va être détachée des 69, puisqu'elle ne va pas être tout de suite après Christ, mais qu'elle est pour la fin des temps. On va voir pourquoi. Donc, en partant de 445 comme point de départ, si nous comptons les 49 ans des 7 premières semaines, 7 fois 7, 49, donc si c'est des semaines d'année, ça fait bien 49 ans, on se retrouve en l'an 400 avant Jésus-Christ. Ici, effectivement, Jérusalem est rebâtie dans des temps fâcheux. Ça, c'est le livre de Néhémie qui explique cela, parce qu'ils ont dû rebâtir Jérusalem, mais il y avait les ennemis qui étaient là pour les en empêcher. Donc, ça a été dans des temps fâcheux. Mais ils ont quand même réussi à reconstruire. Mais ça a été long parce qu'ils ont été arrêtés, puis après ils ont pu reconstruire, puis après ils ont été arrêtés, etc. Il y a eu des combats, c'est pourquoi ça a duré 50 ans. L'ouvrage a fini par être achevé. Donc il y a eu cette première portion, on va dire, dans les 70 semaines, une première partie correspondant à 49 ans. Ensuite, 434 ans après, l'autre événement, on se retrouve en l'an 30 en Jésus, c'est « Le Messie sera retranché », donc je lis le verset 26. Après les 62 semaines, c'est-à-dire cette deuxième portion, on a dit la première portion, c'était 7 semaines. 62 semaines, c'est la deuxième portion, ce qui aboutit en tout à 69. On se retrouve en l'an 30 après Jésus-Christ. Effectivement, le Messie, c'est-à-dire le Christ, Jésus-Christ, sera retranché. Voyez la précision du texte, parce que là, ça fait référence à la crucifixion de Jésus. Il est retranché. Et le mot original ici, c'est d'ailleurs le mot « coupé », mais qui signifie aussi « traiter une alliance ». C'est le mot « karat » en hébreu. Il a été retranché, mais il a traité une alliance. Double sens, parce que Jésus est mort à la croix, mais pour nous introduire dans la nouvelle alliance. Vous voyez, tout est déjà prophétisé ici dans Daniel. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a versé son sang. Et si vous vous rappelez, le soir de la Pâque, il a dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. » Donc tout est expliqué, prophétisé. Je continue. Le Messie, verset 26, sera retranché, donc coupé, karat, nouvelle alliance, mais aussi crucifixion, son sang qui va être versé. Il n'aura pas de successeur. Effectivement, Jésus, quand il a été crucifié, ensuite il a été mis au tombeau et il est monté au ciel. Littéralement, quand vous voyez traduit « il n'aura pas de successeur », ça dit « il n'aura personne pour lui ». C'est d'ailleurs comme ceci que traduit la version Colombe, la Bible à la Colombe. « Il n'aura personne pour lui », ça c'est l'hébreu littéral. Et quand il dit « il n'aura personne pour lui », souvenez-vous ce qui s'est passé à la croix. Jésus, tous l'ont abandonné. Tous les disciples l'ont abandonné. On peut dire qu'il n'y avait personne. Personne pour lui. Donc, en fait, cette prophétie de Daniel qui annonce les choses à venir, déjà annonce la venue du Messie et son retranchement. Puis, il continue, « Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Et le peuple d'un chef qui viendra détruire Jérusalem, dans un premier temps, c'est arrivé en deux temps, en fait, deux fois. La première fois, c'est arrivé donc avec ce général romain qui s'appelait Titus, en l'an 70. Il a détruit la ville de Jérusalem et le temple. Mais, en fait, toujours prophétiquement, il faut comprendre ceci, c'est qu'ici, ce général romain qui viendra, ce chef qui viendra détruire la ville, est une image d'un autre chef qui viendra, qui est l'Antichrist. Et là, on va basculer dans la fin des temps, avec la 70e semaine. Comme je l'ai dit, jusqu'à maintenant, on a parlé des 69 premières semaines, en deux tranches. Une première tranche de 7 semaines, plus 62 égale 69, donc 69 semaines d'année. Et maintenant, nous allons basculer dans la dernière semaine qui est détachée des 69 premières et qui va se retrouver maintenant à la fin des temps. Et là, maintenant, on va parler de l'Antichrist qui viendra comme une inondation et qui va semer le chaos sur la terre. Alors, les principaux événements de cette dernière semaine, on va au verset 27, donc toujours dans notre texte. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Vous voyez, cette dernière semaine, elle est ici. Le « il », au verset 27, c'est ce chef qui viendra, c'est-à-dire l'Antichrist. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Qui sont ces plusieurs ? C'est le peuple juif. Donc, l'Antichrist fera une solide alliance avec le peuple juif, mais au milieu de la semaine, c'est-à-dire au milieu de ces 7 années, puisque les semaines ici sont prophétiques, donc 7 ans divisé par 2, ça fait 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire que l'Antichrist, quand il viendra, fera alliance avec le peuple juif et rétablira le sacrifice dans un premier temps. Puis, au bout de 3 ans et demi, il se révélera tel qu'il est, puisque les Juifs n'auront pas reconnu en lui l'Antichrist, bien sûr, ils n'auront pas cette connaissance, et ils vont l'accepter pour faire alliance avec lui. Mais au milieu, il va se retourner contre le peuple juif et rompre l'alliance. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande, donc il avait rétabli, puisque encore au jour d'aujourd'hui, les sacrifices sont abolis. Il y a même le temple a été détruit, même le temple de Jérusalem, il n'existe plus. Donc tout ça va être rétabli, mais ça va cesser à nouveau. Et là, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine vienne sur le dévastateur. Alors là, on parle de plusieurs éléments. C'est que l'Antichrist fera une solide alliance avec plusieurs, c'est-à-dire le peuple juif. Il rétablira le culte judaïque et le temple. C'est-à-dire qu'il est prophétisé ici que le temple sera rétabli. Les Juifs, d'ailleurs, orthodoxes, s'attendent à cet accomplissement. Ils s'attendent à ce que le temple soit rebâti et ils préparent tous les éléments pour remettre en place les sacrifices. Donc, il y a même des tribus qui ont été retrouvées parmi les 12 tribus, des Lévites. Les Lévites qui sont censés apporter les sacrifices, donc tout est prêt, ils ont préparé les vêtements, ils ont préparé les ustensiles pour faire les sacrifices, donc voilà, ils attendent que ça. Et une fois que le temple sera rétabli, que les sacrifices, puisqu'aujourd'hui, actuellement, les Juifs ne font pas de sacrifices. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent que le temple soit rétabli pour faire des sacrifices. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que dans le temple, pour les Juifs, qu'on peut faire des sacrifices. On ne peut pas faire des sacrifices à la maison, on ne peut pas faire sacrifice dans la synagogue. Le sacrifice, c'est au temple. Donc, il faut attendre que le temple soit rebâti. Et au milieu des 7 ans, le dévastateur, c'est un autre nom de l'Antichrist, il fera cesser par la force le culte dans le temple, et là, il commettra les choses les plus abominables, c'est-à-dire, il se retournera contre le peuple juif et le détruira par la persécution, par la profanation du temple. Alors là, on a un indice maintenant dans le Nouveau Testament. Le temple qui sera rebâti sera profané par l'Antichrist. Ça, c'est Paul qui l'annonce dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Paul dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire le rejet de la foi, soit arrivé auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme impie. » L'homme impie dont il est question ici, c'est l'Antichrist. « Qu'on ait vu paraître l'homme impie, fils de la perdition, c'est toujours lui, l'adversaire, c'est encore lui, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Voilà une prophétie ici de Paul, on est donc dans le Nouveau Testament. Il parle de temps à venir. Donc on est bien, lui, il fait référence à cette 70e semaine, puisque au temps où Paul parle, les 69 premières semaines sont accomplies. Les 69 premières semaines d'année sont accomplies jusqu'à la mort de Jésus, mais il sait que prophétiquement, il y a encore une semaine prophétique à venir, qui est celle de l'Antichrist. Et il dit, à cette semaine-là, l'Antichrist va aller s'asseoir dans le temple de Dieu. Alors, ça suppose que le temple sera rebâti, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas là. Il s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça veut dire qu'il se fera adorer comme Dieu vivant. Ça sera une religion, une nouvelle religion, la religion de l'Antichrist. Ce verset confirme 3 éléments. 1, que le temple sera rebâti à la fin des temps. 2, qu'il y aura un culte national, même plutôt mondial, pour adorer l'Antichrist, et 3, que l'Antichrist sera en parfaite communion avec Satan lui-même pour se proclamer Dieu. Vous savez que le péché, le premier péché de Satan, Lucifer, l'archange qui était l'ange de lumière, c'était de vouloir se faire l'égal de Dieu, donc de se proclamer Dieu. Donc on voit tous ces éléments qui confirment cela, et ça termine. La fin, donc, le dévastateur commettra les choses les plus abominables, la persécution du peuple juif, il voudra l'exterminer, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, la fin de l'Antichrist est programmée, la ruine tombera sur lui, ce qui a été résolu, c'est le retour de Jésus en gloire qui mettra un terme à son action au bout de ces 7 années de chaos. Christ reviendra en gloire et il reviendra avec les saints pour régner sur la terre. Ce sera le règne de 1000 ans, ce qu'on appelle le millénium. Je termine avec la question, quand est-ce que la 70e semaine se réalisera? Quand est-ce que la 70e semaine se réalisera? Puisque du temps de Daniel, il annonce 60, d'abord il annonce 7 semaines, 7 semaines de 7 ans, plus 62 semaines de 7 ans, donc on est bien à 69 semaines qui arrivent au Messie crucifié, mais quand est-ce qu'arrivera, donc on est là en l'an 30 après Jésus-Christ, au bout des 69 premières semaines, quand est-ce qu'arrivera la 70e semaine? Eh bien, elle est détachée des 69 premières et elle se produira à la fin des temps. La prophétie ne donne pas de date pour la 70e. Par contre, on peut retrouver les dates des 7 premières semaines et suivies des 62 autres. On arrive à les dater, mais pas la 70e. Car la parole de Dieu ne nous révèle pas la date de la grande tribulation. Ce sont des dates qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que la grande tribulation qui est liée au retour de Jésus, vous voyez dans Matthieu 24, verset 36, Jésus parle ici de son retour qui mettra donc un terme à la grande tribulation. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc Jésus prophétise dans Matthieu chapitre 24, la venue de l'Antichrist, il l'appelle l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation, c'est l'Antichrist. Ça correspond à cette période de grande tribulation, à la fin des temps. Et dans Matthieu 24, vous voyez très bien, si vous lisez tout le chapitre, que Jésus revient après la tribulation avec son Église pour régner sur la terre. Alors on peut comprendre que c'est la fin du verset 27 ici. La ruine et ce qui a été résolu fondera sur le dévastateur. Quand Jésus en parle de cette ruine et de ce qui a été résolu, eh bien, il fait référence au retour glorieux de lui-même qui viendra du ciel pour régner sur la terre. Qu'y a-t-il maintenant entre la 69e semaine, c'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix, et la 70e qui est à la fin des temps? Qu'y a-t-il entre les deux? Eh bien, après la croix et jusqu'à l'apparition de l'Antichrist, il y a la période de l'Église qui va être dans cette période. Cette Église était cachée aux prophètes de l'Ancien Testament comme un mystère. Éphésiens 3, versets 3 à 6. Paul parle de l'Église comme d'un mystère. Et effectivement, les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas vu l'Église. Ils n'ont pas prophétisé l'Église. Ils ont prophétisé la venue de Jésus. Ils ont prophétisé différents éléments, même son retour en gloire, le règne de 1000 ans. Mais l'Église était cachée. Éphésiens 3, 3, Paul en parle comme d'un mystère. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations comme il l'a été maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, le mystère, c'est que juifs et païens vont former un seul corps qui est l'Église. Et actuellement, nous sommes dans la période de la grâce où l'Église est là sur la terre, où l'Église annonce l'Évangile et où on peut être sauvé de nos péchés par la foi. Ça, c'est le temps entre la 69e semaine qui est la mort de Jésus sur la croix et la 70e qui commencera quand l'Antichrist apparaîtra sur la terre. C'est la période de la grâce maintenant. Et Jésus annonce à propos de Jérusalem, et on va terminer avec cette prophétie, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. » Ça, c'est une prophétie très importante parce qu'effectivement, Jérusalem a été foulée aux pieds à partir de l'an 70 après Jésus-Christ avec Titus, le général romain, qui a envahi Jérusalem et détruit le temple, jusqu'en 1948 où Israël a été autorisé à revenir sur sa terre et à fonder l'État d'Israël. Donc, ce qui fait pratiquement 2000 ans de diaspora, c'est-à-dire le peuple juif a été dispersé sur la surface de la terre entre l'an 70 et 1948. Mais les prophéties disaient que le peuple juif devait retourner dans sa terre. C'est ce qui s'est passé en 1948 et depuis cette date, création de l'État d'Israël. En fait, tout est en place pour que maintenant arrive la 70e semaine de Daniel. Donc, on a tous les éléments en place, les événements s'accélèrent, le monde même cherche des solutions. J'entends parler de gouvernement mondial, par exemple. Ce ne sont pas des croyants qui disent cela, ce sont les gens du monde. Ils cherchent à établir un gouvernement mondial pour régler les problèmes mondiaux. Alors nous, chrétiens, nous savons que les prophéties s'accompliront, mais nous devons être prêts pour le retour de Jésus. Le Seigneur revient bientôt et il nous faut être prêts chaque jour pour faire partie des élus qui seront enlevés à la rencontre du Seigneur quand il reviendra. Et je vous le souhaite de faire partie de ceux qui appartiennent à Jésus et qui iront à sa rencontre quand il reviendra dans la gloire. Que le Seigneur soit béni. On va prier. Merci encore pour ta parole. Merci pour ces révélations prophétiques. Merci Seigneur parce que tu as tout indiqué pour que nous soyons vigilants et nous voulons Seigneur nous nourrir de ta parole et surtout la méditer et la comprendre pour bien la vivre comme tu le désires. Te prions pour que chacun soit prêt pour les temps difficiles qui arrivent dans ce monde, pour ton retour prochain qui vient, pour être prêt lorsque tu viendras chercher ton Église et que tu viendras régner sur la terre. Oui, Seigneur, je te prie pour que ton Église soit prête le jour où tu reviendras et que nous soyons fidèles pour que tu puisses dire à chacun, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Seigneur, merci encore pour toutes ces révélations que tu as placées dans ta parole qui nous éclairent, Seigneur, sur le plan que tu as établi pour ce monde et nous te prions de garder nos cœurs dans ta paix. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.